Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque émission, je recevrai un jeune, un professionnel ou un parent qui viendra nous parler de sa parentalité ou bien plus encore. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Shan, Athénaïs, Princesse et comme d'habitude, notre chroniqueur Barberiche. Comment vous allez ?
Ça va.
Et vous les filles, vous allez bien ?
Oui, ça va.
Ouais.
Très bonjour, très bien.
Shan, tu es coordinatrice dans ton engagement et ton association. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler un peu de toi ?
Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Shan, j'ai 24 ans et je suis coordinatrice éducative au sein d'HWPL depuis plus d'un an maintenant.
D'accord, très bien. Et du coup, Athénaïs, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, de ton rôle, de ce que tu fais dans la vie ?
Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie aussi d'être présente. Donc, je m'appelle Athénaïs et j'ai 23 ans. Et du coup, moi, je suis la secrétaire de l'association IPYG, qui est affiliée du coup à HWPL. Et dans la vie, je suis designer freelance.
Ok, super. Princesse, comment tu vas ?
Je vais très bien.
Est-ce que tu veux bien te présenter également ?
Oui, évidemment. Alors, moi, je suis Princesse Louise. Je suis coordinatrice également au sein de HWPL France. Je suis en charge des missions liées à l'UNESCO, donc l'organisation onusienne qui a son siège social ici à Paris. Donc, moi, je suis en charge d'organiser des partenariats, des événements vraiment qui sont en lien avec l'UNESCO. Voilà.
Depuis, vous êtes toutes les trois présentées en donnant un sigle.
Ah oui,
vous avez dit HWPL. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, justement ?
Alors, qui se lance ? Je me lance.
Vas-y, lance-toi.
Alors, HWPL, c'est un sigle en anglais pour Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light.
L'accent en plus.
Avec l'accent. Comme je ne suis pas à l'aise avec l'anglais, finalement, c'est pas mal le sigle. Hein.
Je vais vous la faire en français. Donc, c'est culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière.
D'accord, très bien.
Voilà.
Et à côté de toi, on a notre chroniqueur, Barberiche. Comment tu vas ?
Moi, je pensais que tu allais m'oublier déjà.
Mais non.
Pour commencer. Moi, ça va. En plus, j'ai une collègue aujourd'hui qui a presque le même prénom que moi.
Mais encore.
Comment ça s'écrit ?
S-H-A-N-E.
Ah, il y a le E en plus. Okay, d'accord.
Yes.
Non, ça va.
Ouais, ça va. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est l'éducation à la paix en France, mais aussi dans le monde.
Exactement.
Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment, dans votre association, vous utilisez cette éducation à la paix comme un levier ?
Alors, donc, premièrement, il faut déjà comprendre que l'éducation à la paix est vraiment un outil que nous utilisons pour prévenir à toutes sortes de conflits. Donc, au sein de HWPL, donc Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light.
Okay.
On a des English speakers in here.
Oh, yes. Donc, nous avons un curriculum de 12 leçons donc, qui est adapté pour les plus jeunes en primaire et aussi en secondaire. Et nous avons aussi un curriculum pour les plus grands, donc au niveau universitaire. Donc vraiment, ce programme d'éducation à la paix est vraiment adaptable à tout public. Et à travers celui-ci, on essaye de transmettre les valeurs de la paix que nous trouvons très nécessaires, surtout vis-à-vis à la situation actuelle globale, en situation de conflit dans divers pays. Donc déjà vraiment inculquer les valeurs de la paix, de sorte à ce que ce soit les plus jeunes ou les plus grands, quand ils partent à l'école, ne suffit pas uniquement à recevoir une éducation qui leur permet d'obtenir un diplôme ou bien s'en sortir dans la vie, mais déjà premièrement aussi d'avoir des valeurs de vie qui leur permettent de savoir comment respecter les uns et les autres, et aussi se respecter eux-mêmes, se valoriser eux-mêmes afin de réciproquer cela.
Voilà. Très bien. Mais du coup, comment vous, comment vous, comment vous utilisez l'éducation comme levier justement pour travailler cette notion de paix. Concrètement, est-ce que vous avez un petit exemple? En quoi vous appuyez sur quoi pour justement que ça soit un réel vecteur et un tremplin pour faire régner la paix dans le monde?
Alors, ben, je vais commencer déjà par parler par la situation de la France même.
Oui.
Donc, cela fait déjà maintenant 3 ans donc, que nous intervenons au milieu scolaire, aussi à des universités. Donc, on organise des différentes activités, des camps de paix, pour vraiment déjà tout premièrement faire en sorte que ces éducations puissent devenir quelque chose auquel déjà premièrement les élèves puissent savoir comment s'en servir. Et donc on organise voilà, des activités ludiques qui leur permettent de voir comment est-ce que, par exemple, à travers une mise en situation au sein d'une classe, comment se servir, comment vraiment déjà acquérir aussi ces outils pour parvenir eux-mêmes à, par exemple, à régler certains conflits. Je dirais, par exemple, on intervient beaucoup et on sensibilise beaucoup par rapport à la thématique du harcèlement, voilà, le harcèlement scolaire. Et donc, à travers vraiment ces valeurs-là, on essaie de s'adapter en fonction, par exemple, d'une école, des difficultés auxquelles l'école elle fait face ou bien une région. Donc, vraiment, ça dépend par rapport aux difficultés ou à la problématique que fait face l'établissement scolaire auquel on va intervenir. On essaie d'adapter nos programmes de cette sorte-là.
D'accord, très bien. Athénaïs, j'ai une petite question pour toi, puisque du coup, toi, tu es membre de l'IPYG. Est-ce que déjà, tu veux bien nous dire ce qu'est ce sigle?
Oui, bien sûr. Bah, nous aussi, c'est en anglais. Donc, IPYG, c'est International Peace Youth Group.
Okay.
J'ai pas le même accent que mes consoeurs ici, malheureusement. Et ça veut dire, du coup, Groupe International de la Jeunesse pour la Paix.
D'accord. Et comment tu peux nous expliquer les missions de cette organisation et son lien justement avec l'entité que représentent tes copines?
Bien sûr. Alors déjà, donc du coup, oui, nous, on est donc l'association qui est affiliée à HWPL et nos deux visions principales par rapport à IPYG, c'est vraiment de pouvoir protéger les jeunes des conflits et des guerres, mais aussi en fait laisser la paix en héritage aux générations futures. Donc, par exemple, HWPL, ils vont avoir plusieurs initiatives, mais nous, on va être vraiment ciblés autour de la jeunesse. Donc, souvent, par exemple, les universités, même les plus jeunes, au final. Des fois, on fait aussi des activités avec des associations qui visent des jeunes qui sont encore dans le milieu scolaire, tels que le lycée, le collège, etc. Mais c'est principalement les jeunes étudiants. Et du coup, nos activités, notre but, en fait, c'est qu'on a plusieurs initiatives. Et par exemple, on a, pardon encore pour l'anglicisme, on a les YEPW, donc c'est les Youth Empowerment Peace Workshop. Et en fait, à travers ça, on va chaque année avoir une thématique qu'on va aborder. Et le but, c'est de vraiment pouvoir, ça peut avoir plusieurs formes. Mais par exemple, en 2021, du coup, c'était la période où il y avait le Covid et on s'est vraiment principalement concentré sur le cyberharcèlement.
Ok, oui. Super.
Et en fait, on a essayé de faire comme un jeu vidéo, où c'était un peu comme une simulation où les jeunes pouvaient voir en fait à travers chaque situation comment est-ce qu'il faudrait réagir et comment est-ce qu'on peut faire en fait. Le but c'était vraiment de pouvoir s'immerger dans une situation de cyberharcèlement et de pouvoir voir en fait quels sont les outils que je peux mettre en place. Et sur ça, on s'est aussi basé sur le curriculum du coup qui a été réalisé par HWPL. Mm-hmm. Et aussi par exemple l'année suivante, on s'est plutôt basé sur la multiculturalité, parce qu'en fait, on a réalisé qu'en France, donc du coup, par exemple, pour IPYG France, même si on est une organisation internationale, on essaie de se baser sur l'actualité. Mmh. Et par exemple, quand on regarde sur Paris, on catégorise beaucoup les personnes. On va dire, ah, je vais aller chez l'Indien, le quartier chinois, etc. Et en fait, ça crée des divisions aussi. Mmh. Et donc, notre but, c'était de pouvoir permettre, en fait, aussi, parce que les guerres viennent aussi par rapport aux préjugés, oui, les stéréotypes et les peurs qu'on peut avoir des autres. Et du coup, c'était de pouvoir avoir un lieu où, en fait, on peut partager à propos des cultures de chacun. Et on avait aussi pris le principe de pouvoir utiliser l'art pour pouvoir ouvrir, en fait, les mentalités par rapport aux différentes cultures. Et on avait fait des artist sessions où on invitait des artistes, Du coup, c'était principalement des chanteurs et des danseurs pour la première session. Et en fait, à chaque fois, ils nous parlaient de leur histoire. Il y en a certaines personnes qui ont quitté leur pays parce que bah, elles étaient en guerre. Et en fait, elles nous partageaient à propos de leur histoire. Et c'est comme ça que du coup, on pouvait aussi s'ouvrir aux autres cultures.
Oui.
Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille aussi avec... donc, on travaille avec HWPL au travers de leur initiative. Et on essaye aussi d'être un peu le lien, le pont, en fait, entre la jeunesse et aussi les valeurs de paix avec HWPL. Parce que souvent, en fait, quand on va parler de la paix à la jeunesse, surtout en France, bah, on va se dire que c'est quelque chose d'un peu utopique, un peu vague. Donc, on va essayer de trouver, en fait, montrer que la paix, ce n'est pas forcément quelque chose où... Voilà, aujourd'hui, en France, on n'a pas forcément des conflits, on va dire, sur notre territoire, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des conflits dans les quartiers, il y a aussi l'harcèlement, il y a beaucoup de thématiques en fait.
Et ce qui se passe actuellement en Martinique, par exemple ?
Par exemple.
Oui. Après la Nouvelle-Calédonie.
Exactement. Voilà. Okay. Et aussi, on a aussi des activités où des fois on récolte des fonds. On a fait avec HWPL et aussi un partenariat avec la Juste Debout School, du coup, un workshop de danse où on voulait récolter des fonds pour pouvoir construire, donc faire des activités de paix et construire un monument de paix en Ukraine, mais aussi au Congo et aussi en Palestine.
D'accord.
Donc, voilà.
Du coup, tu as parlé un peu de multiculturalisme. Oui. Comment vous abordez cette question concrètement, parce que du coup, elle fait sens par rapport aux différentes actions et par rapport à votre intervention internationale. Comment vous abordez ça avec les jeunes? Comment vous appréhendez ça dans vos réflexions, dans la mise en place de projets?
Alors déjà, il faut savoir que, en fait, on remarque beaucoup que la jeunesse aujourd'hui, elle a besoin de s'exprimer. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir créer des événements où les jeunes peuvent vraiment s'exprimer et puissent avoir un lieu où ils sont entendus.
Oui.
Donc voilà, donc ça peut être à travers des interventions. Certes, les interventions, ça va aider aussi à ouvrir les yeux sur certaines réalités. Mais par exemple, vraiment juste réunir les jeunes et leur permettre de pouvoir échanger, c'est vraiment quelque chose qui va avoir plus d'impact. Par exemple, cet été, ce qu'on a mis en place, c'est des meet-up débats où en fait, par exemple, il y avait tout ce qui se passait autour de la politique. Et du coup, on a réuni des jeunes au sein de notre bureau. On a mis une thématique. Donc, à ce moment-là, c'était « Est-ce que l'immigration est un danger pour l'Europe ?» Donc, c'était un thème vraiment volontairement.
Ouais, pas mal. Barbery, je suis sûre que t'aimes ça. Parce que lui, il aime bien mettre les pieds dans la tasse.
Tu viens de me donner une idée de thème pour la récré junior.
Voilà, c'est ça.
Tu l'as noté ou pas ?
Et je vais vous inviter.
J'espère que tu l'as noté parce que tu vas oublier.
Au pire, je lui redirai encore après. Mais du coup, en fait, à travers ce temps-là, on avait juste des jeunes, on avait juste un bol de chips après le meet-up débat. Et en fait, on voulait juste avoir ce temps-là. D'abord, on a fait un quiz parce qu'on a invité d'autres associations. Nous, on a vraiment pour but de rassembler les associations qui ont les mêmes thématiques, les mêmes valeurs et aussi qui ciblent la jeunesse. Et en fait, d'abord, ils ont parlé de leur organisation, des thématiques qu'ils abordent. Mais aussi, après, on a vraiment juste pris un temps avec la thématique, déjà pour voir quels étaient les ressentis. Aussi par rapport à tout ce qui se passait dans l'actualité, mais aussi voir en fait quelles étaient les différentes opinions. Et vraiment, même s'il y avait chacun qui apportait sa propre touche, on réalisait qu'en fait les jeunes, ils ont tous une même vision et ils veulent en fait pouvoir changer les choses et ils veulent pouvoir être entendus. Donc c'est un peu comme ça qu'on l'aborde.
Est-ce que vous voyez les filles ou Anne quelque chose à rajouter sur cette partie-là, sur le multiculturalisme, comment il est abordé et comment on fait en sorte qu'il soit représenté? Parce que souvent, il y a des événements, mais ça manque un peu de ce multiculturalisme. Hein. C'est souvent assez communautaire, on retrouve les mêmes groupements de personnes.
Oui.
Est-ce que là, vous arrivez à toucher des gens d'un peu partout, d'horizons différents, ou est-ce que ça reste quand même communautaire?
Justement, je pense que c'est une problématique auquel on fait face, c'est-à-dire de par le travail que nous faisons et malheureusement par ce que nous représentons à travers ce que les personnes vont voir avec leurs yeux. Donc, il y a forcément du communautarisme qui va s'infiltrer, j'ai envie de dire, au sein de notre travail. Alors que nous sommes une organisation internationale pour la paix. C'est-à-dire, la paix n'a pas de couleur, la paix n'a pas d'origine. La paix, c'est tout le monde. Et comment je peux dire, chacun, c'est-à-dire personnel à la fois. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on essaye, justement, on travaille pour pouvoir rassembler les communautés, pour pouvoir, parce que les valeurs, c'est des valeurs humaines qu'on prend déjà premièrement, que ce soit à travers les éducations à la paix ou à travers toutes les collaborations et le travail d'IPYG, on essaye de transmettre des valeurs humaines. Déjà, l'estime de soi-même et l'estime de l'autre. Mmh. C'est-à-dire comprendre quelle est ma valeur, qu'est-ce que moi, je peux apporter à la société et quelle est la valeur de la personne à côté de moi aussi. Et se rendre compte que finalement, on n'est pas si différent que ça.
Exactement. Moi, j'espère que j'ai une grande valeur.
Ah, mais bien sûr.
Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que même le discours, là, c'est intéressant. En plus, c'est du podcast. On ne vous voit pas. On ne sait pas d'où vous venez. On ne sait pas quelle est vos couleurs de peau, etc. Donc, oui. C'est magnifique. Mmh. Mais n'empêche que quand j'entends ton discours qui est universel, je me fais toujours la réflexion de pourquoi quand un mouvement est porté par une personne d'une communauté, peu importe laquelle, hein, qu'elle soit issue d'Afrique, qu'elle soit issue d'Asie ou d'ailleurs, eh ben, c'est comme si ce message s'adressait d'abord à une communauté. Et quand on va dans les événements, selon la personne qui nous invite, la représentativité des autres, quel que soit l'autre, blanc, non blanc, etc., elle est flagrante pour moi. Et à chaque fois, je me pose la question en me disant, est-ce que finalement les événements sont à l'image de celui qu'il porte, mais dans tout son ensemble, c'est-à-dire aussi bien physiquement que dans la parole, que dans les valeurs. Et comment on peut briser justement ce plafond de verre en se disant, ben, si tu prônes des valeurs universelles, qu'est-ce qui fait que lors des rassemblements, on n'est pas justement cette diversité? Il y a des concerts aujourd'hui qui rassemblent des personnes diverses et variées de tout horizon, de tout âge, etc. Mais quand on prône des messages aussi forts avec des valeurs humaines, humanistes, eh bien là, il y a un truc qui se passe et je n'arrive pas à comprendre. Et du coup, je me demande si avec vos expertises, vos diagnostics, les échanges que vous pouvez avoir autour de vous, est-ce que ça s'explique ou est-ce que c'est encore l'inconnu?
Alors,
ce pourquoi.
Et
même, au sein de l'Afrique, par exemple, y a une frontière entre le Maghreb et l'Afrique noire. Et quand il y a des événements qui vont être portés par quelqu'un, par exemple, qui vient du Maghreb, il va y avoir une grosse communauté de Maghrébins qui vont être sur place. Quelques autres de l'Afrique, mais pas tant que ça, et vice-versa. Quand ça va être porté par un Européen, c'est pareil, on va avoir une grosse représentation des Européens et quelques non-Européens à la marge.
Moi, je peux me permettre d'intervenir. Déjà, je voulais rebondir sur des propos qui ont été tenus. Déjà, on parle de préjugés. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des gens ont des préjugés sur l'autre. Donc déjà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est la base. C'est la base du conflit, de la guerre. C'est ça la base du conflit, de la guerre. Maintenant, ça répond aussi à ta question. C'est-à-dire que n'importe quelle communauté voit les autres communautés de manière négative. Il y a toujours des préjugés. En fait, une communauté a toujours des préjugés envers une autre communauté.
Exactement.
Toujours. C'est-à-dire que là, tu as pris l'exemple, par exemple, de l'Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'ethnies, même dans le même pays parfois.
C'est ça.
Et une ethnie n'aime pas l'autre ethnie alors qu'ils font partie du même pays. La culture se ressemble, la couleur est la même, mais il y a toujours cet antagonisme. Donc, pour moi, c'est totalement logique que lorsque une communauté fait un événement, elle soit que avec les membres de cette communauté. Je ne dis pas que c'est normal. J'ai dit que c'était logique, mais pas normal. Pour moi, en fait, et ce qui est compliqué, et je pense sur quoi il faut travailler, c'est ce côté un peu transmission-héritage, parce que c'est quelque chose qui se transmet, et on a l'impression que c'est intrinsèque. C'est-à-dire, on a l'impression que dès qu'on est, en fait, vu qu'on nous transmet des choses, dès qu'on est, on a forcément un antagonisme qui naît vis-à-vis des autres. Et donc, je pense que, et on le voit à travers les actions que vous faites, que la base, c'est de faire des ateliers, c'est de faire en sorte que les gens se mélangent. Tout à l'heure, tu parlais de meet-up, c'est ça? Moi, j'ai pas l'accent, moi. Tu parlais de meet-up. Je pense que c'est important. Il faut que les gens se rencontrent. Il faut que les gens fassent tomber les barrières, parce qu'on a toujours... cette méconnaissance de l'autre, cette peur de l'autre parfois. Je pense que pour la combattre, il faut juste se rencontrer, échanger et se rendre compte que on a des similitudes et que même si on a des différences, c'est pas ce qui va faire que va se dresser un pont entre nous.
Exactement.
Ou des barrières, pardon, entre nous.
Exactement. Tout à l'heure, Aminata parlait de plafond de verre qu'il faut dépasser, qu'il faut briser, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre en avant ce qui nous différencie, même au sein d'un même peuple.
Exactement. Oui.
On va mettre en avant, même si ça peut être tellement insignifiant, tellement minime à... qu'est-ce qu'il y a ? Ah, moi, je mange foutou banane, toi, tu manges, je ne sais pas, du couscous, vous voyez ? Juste ce petit truc-là d'une nourriture, de différence d'alimentation, ça, c'est sur ça qu'on va se focaliser. Donc, on peut avoir une petite différence et 9 similarités, mais on va se focaliser sur la différence.
Exactement.
Ce qui va faire, finalement, qu'on va avoir cette communautarité qui va être mise en avant et qui, malheureusement, même si, comme tu disais tout à l'heure, on essaye de véhiculer des valeurs humanistes, mais toujours, voilà. Ça, c'est comme si ça c'était dirigé en fait uniquement vers la communauté de la personne qui diffuse ces valeurs-là. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et c'est aussi un peu notre combat également.
Exactement.
Parce que, et c'est pour ça que notre organisation est internationale et qu'on essaye beaucoup de travailler en partenariat. On essaye énormément de développer des partenariats avec des associations, avec la société civile et également d'aller même jusqu'à de travailler avec le gouvernement pour pouvoir justement dépasser ces différences-là, ces limites-là. Ce sont des limites qui sont finalement dans notre tête.
Oui, dans nos têtes. On a parlé de communautarisme et du coup... c'est important parce qu'on a besoin aussi de s'identifier, de reconnaître ses pairs, etc. Ça fait partie du cheminement.
Oui.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même une problématique qui commence à apparaître avec justement tous ces groupes communautaires qui du coup développent des compétences entre elles qui sont importantes et nécessaires pour l'évolution d'une personne, mais qui créent une barrière pour justement se rassembler tous au moment où il le faut. Par exemple, là, on parlait des guerres, etc. Normalement, on devrait parler d'une seule voix. On ne devrait pas prendre parti, que ce soit pour la Russie ou pour l'Ukraine, pour la Palestine ou pour Israël. On devrait prendre parti pour la vie, en fait.
Exactement.
On a le droit de vivre, on a le droit d'être serein. Et alors qu'aujourd'hui, quand on prend position, quand on parle... Oui, mais du coup, tu es pour Palestine ou Israël ? Mais moi, je suis pour la vie, en fait, pour l'humanité. Et on dirait qu'on n'a pas le droit de juste prôner l'humanité et toutes ces vies perdues. Et Russie, Ukraine, c'est pareil. Et il y a plein d'endroits dans le monde où... tout à l'heure, vous parliez du Congo. Mais vous voyez, on n'a pas le droit de juste demander à ce que les gens puissent vivre, respirer, sans prendre parti pour un conflit qui n'est pas le nôtre, finalement.
Exactement.
Pour justement répondre à ce que tu dis, nous pensons également que l'éducation est très, très importante et l'éducation est puissante, justement, pour combattre déjà ces pensées, ces racines qui sont parfois juste innées en nous. On est baigné dans une certaine culture, on s'associe facilement à la personne qui me ressemble. Par exemple, je suis invitée à un événement, j'aurais tendance à s'asseoir à la personne, qui me ressemble, de la même couleur que moi. En fait, ces petits éléments-là, inconsciemment, c'est ce qui nous divise, en fait. C'est ce qui crée vraiment la division au sein de la société. En tout cas, ça contribue.
D'accord.
Et c'est la raison pour laquelle, nous, au niveau du département de l'éducation à la paix, on essaie vraiment d'attaquer premièrement ces racines-là. Déjà, quand on regarde nos programmes d'éducation à la paix, donc, ces programmes ont été conçus par des enseignants de diverses cultures. On a choisi une trentaine qui viennent
d'horizons différents.
Exactement. Une représentation de chaque continent a été sélectionnée pour justement apporter cette touche universelle, vraiment que tout le monde soit représenté d'une manière à une autre. Et même au niveau des valeurs qu'on essaye vraiment de transmettre, donc sensibiliser, comme l'UNESCO, justement, met en avant le fait que c'est vraiment dans l'esprit de l'homme que justement les conflits naissent. Mmh. Et c'est vraiment dans l'esprit de l'homme qu'on doit attaquer ces racines-là et ériger en fait les barrières de la paix. Mmh. Et donc nous, à travers les éducations à la paix, on essaye vraiment, en transmettant ces valeurs, à sensibiliser au fait de reconnaître déjà que même au sein d'une famille, ben moi je suis différent de mon frère et de ma sœur. Mmh. On a une personnalité totalement différente. Et d'accepter la diversité, respecter la diversité, mais tout en même temps, en reconnaissant ma valeur à moi. Une fois que je connais ma valeur, je pourrais aussi reconnaître la valeur de l'autre. Et de reconnaître aussi que la diversité, c'est quelque chose de beau. C'est magnifique. Moi, je travaille dans le patrimoine. Je suis architecte du patrimoine. Et en tout cas, je peins aussi. Et moi, personnellement, je trouve qu'un tableau qui a beaucoup de couleurs, qui a une diversité dans déjà même les touches des palettes, etc., c'est magnifique que juste quelque chose
de linéaire.
Linéaire, exactement. Et donc, même à travers ces éléments-là, on voit à quel point la diversité est importante et aussi essentielle. Mmh. On peut justement en apprendre, on peut en bénéficier. Je pense que ce sont des choses finalement qui, parfois inconsciemment, on ne se rend pas compte. Mais en fait, on prend cela comme l'ennemi. Au contraire, ça devrait être quelque chose qui nous permet, nous, d'avancer ensemble, d'être vraiment dans l'unité. Et donc voilà, à travers donc, ces éducations à la paix, on essaye vraiment de mettre en avant le multiculturalisme, son importance, et d'attaquer ces racines très individualisme, que en fait ça devient de plus en plus récurrent, surtout à travers même les jeunes, après c'est comme ça que au final on grandit avec, mais vraiment à travers l'éducation, en voyant vraiment que l'éducation est un outil très très puissant, on peut à travers celui-là transmettre les bonnes valeurs et permettre que les jeunes puissent grandir vraiment avec des bonnes valeurs et leur permettant de devenir des citoyens de paix, des citoyens responsables.
J'ai une petite question.
Oui.
Parce que là, c'est vrai
une excellente transition pour ma question d'après. J'espère que Anne, tu vas rester dans la même tonalité.
Il y a un combat de questions, là.
Ouais.
Vous avez vu, je ne parle pas beaucoup, mais quand je parle...
C'est juste que j'espère que tu vas maintenir le fil.
C'est parce qu'on est en minorité, je suis le seul homme.
Moi, j'aurais parlé de connexion, au contraire.
Non, je plaisante. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des ateliers que vous faites au sein des institutions, du coup. Donc là, on parlait d'école. Mais est-ce qu'il vous arrive d'intervenir auprès des familles? Parce que les jeunes, certes, vont à l'école, mais puisent leurs influences, leurs connaissances. On parlait de leur culture, on parlait de transmission tout à l'heure. Dans la famille. Vous intervenez dans la famille?
Nous intervenons dans la famille. Nous travaillons avec les parents, justement. Pour la France, je donnerai l'exemple de Clécis Junior, avec qui nous travaillons. Donc, on essaye vraiment non seulement de sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs parents. Parce qu'en fait, le problème est que on peut organiser des ateliers ludiques, transmettre ses valeurs, des très, très bonnes valeurs. Mais ils vont rentrer à la maison. Voilà. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont voir comment est-ce que la relation, le relationnel, avec, au sein de la famille même, comment est-ce que ça se passe. Au final, tout ce travail qui se fait à travers des ateliers, à l'école, en fait, finalement, on doit repartir encore à zéro. Et donc, c'est important d'inclure aussi, d'intégrer les parents, de travailler avec les parents, pour que finalement, ça soit quelque chose non seulement que les petits ou bien les jeunes ou les grands reçoivent cela, mais également aussi les parents, et que ça soit vraiment holistique, de sorte à ce que c'est de la famille qui reçoive finalement ces valeurs-là, ces éducations-là. Et c'est pour cela que les éducations à la paix sont adaptables à tout public. Il n'y a pas de public en particulier, c'est vraiment toute personne qui peut en recevoir, qui peut en bénéficier, parce que nous devons tous devenir de toute façon des citoyens de paix, nous devons savoir comment vivre ensemble, comment se respecter. Ce n'est pas uniquement que pour les petits.
D'accord. Parce que je posais cette question parce que pour moi, tout ce qui est violence, en fait, c'est un héritage des adultes. Parce que les enfants font comme les adultes.
Exactement.
Ils produisent.
Oui.
Donc, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. Et même des fois, je suis un peu dur, moi, dans mes propos. Des fois, il faut tout raser et recommencer. Quand je dis ça, je le dis de manière triviale, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression, en tout cas, vu que la société d'aujourd'hui est très violente, il faut tout raser et tout recommencer, en fait. Donc, est-ce que...
On va revenir à l'Arche de Noé.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé...
Nous ne serons pas sélectionnés. Hein.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que c'est peine perdue?
Non, jamais.
Ah non. Non.
Jamais. En tout cas, on a de l'espoir. On sait que, bien évidemment, c'est quand même un objectif très, très ambitieux.
Oui.
Aujourd'hui, quand on parle de la paix, beaucoup de personnes, en tout cas, l'image qu'ils ont, c'est un peu « Ah, mais est-ce que vous vivez dans un monde de bisounours ?» Est-ce qu'on sait vraiment que la paix, elle est réelle? Mais à travers le résultat que nous, on voit se produire à travers nos initiatives, aussi les actions qu'on mène, en voyant vraiment le résultat qui est produit, c'est, pour nous, c'est une évidence que, bien évidemment, voilà, le chemin, il est lent, mais on va y arriver au final. Et c'est pour cela qu'on met en avant aussi le fait de travailler avec des partenaires, être ici, faire connaître notre organisation, encourager d'autres personnes aussi à nous rejoindre dans cette bonne cause qui est la paix. On va y arriver tous ensemble. Et donc, c'est pour cela que, non seulement les États ou bien des organisations...
Mais des fois, les gens, ils ne vous prennent pas pour des fous.
J'allais vous dire ça.
En fait, c'est que... Ils peuvent nous prendre pour des fous. Nous, on est fous pour la paix.
Exactement.
On veut absolument la paix. Et la paix, c'est quelque chose qui est nécessaire. Personne vraiment dans son cœur, en étant vraiment dans un état normal, voudrait la guerre, tout simplement, le conflit. Et c'est pour cela que même à travers nos éducations à la paix, on met en avant le fait que la paix commence déjà par moi-même, par soi. Moi, je dois être en paix avec moi-même. Je dois être en paix avec moi-même afin de aussi transmettre finalement cette paix que j'ai en moi aux personnes qui m'entourent.
Totalement. Ça, c'est clair.
Et je rajouterais même qu'en fait, par exemple, personnellement, quand on me demande pourquoi est-ce que vraiment tous les jours je me bats pour la paix, je me dis je le dois aussi à mes petits frères, à mes futurs enfants, etc. Par exemple, moi, j'ai commencé à vouloir, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est partagé par les autres, on a commencé à être engagés pour la paix. Personnellement, j'ai des parents qui ont vécu la guerre. J'ai aussi des grands-parents qui ont vécu la guerre. Et en fait, aujourd'hui, on voit par exemple le combat de IPYG, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes qui sont envoyés du coup sur le front alors qu'ils n'ont rien demandé puissent vraiment, on veut les protéger en fait. Et donc du coup, ce qui m'a donné envie de pouvoir être engagée, c'est de me dire, mon petit frère, il a 20 ans, récemment il avait 20 ans, et j'en ai un autre qui a 14 ans. Mon but, c'est de pouvoir faire en sorte que demain, s'il y a un conflit qui soit en France, ils ne puissent pas en fait être envoyés. Ou même s'il y a un conflit autre part, qu'on ne les envoie pas en fait. Et même, nous, on a envie d'être maman, par exemple, future maman. On ne se voit pas avoir un monde où on doit faire grandir et évoluer nos enfants dans un monde où il y a autant de violence, autant de guerre, autant de haine en fait envers les personnes. Donc je pense que on le doit. Même si on pense qu'on est fou, on nous traite de fou, en fait, on doit le faire. Et s'il n'y a personne qui le fait, comment est-ce qu'on pourra avancer? Je me rappelle une fois, il y avait une personne qui avait intervenu à mon école et aussi il avait ce combat-là pour la paix parce que, en fait, pour pouvoir vivre de sa passion en tant que dessinateur, il avait dû quitter son pays en guerre. Et en fait, il avait dit, quand on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il a ce cœur-là pour la paix, il disait qu'en fait, tant qu'il y a encore une petite lumière, on n'est pas complètement dans l'obscurité.
Et toi, Chan?
C'était pas un dessinateur, c'était un poète. Hein.
Et toi, Chan?
À 6 heures perdues.
Alors, lorsque justement Anne m'a devancée, j'allais dire justement que oui, ça nous arrive même que les personnes, même si elles ne vont pas forcément le dire, mais elles vont se penser que nous sommes fous en fait. Mais tout comme il y a des personnes qui travaillent très dur pour la guerre, pourquoi il n'y aurait pas des personnes qui travaillent très dur pour la paix?
Et puis en fait c'est vraiment un élan d'humanité et d'amour que de lutter et d'œuvrer pour la paix, parce que comme vous l'avez dit, par rapport à nos enfants, par rapport aux générations futures, par rapport aux personnes qu'on aime, par rapport à nos conjoints aussi, parce qu'en cas de guerre, nous on mène des ateliers de parentalité à travers Soparks, et il y avait une maman qui disait mais moi je viens d'Ukraine,
Mon mari, il est de l'autre côté, il fait la guerre. Mmh. Moi, je suis isolée ici avec ma fille. Toutes les secondes, je me demande si mon téléphone va sonner pour m'annoncer qu'il est mort. Mmh. Et des fois, la plus grosse peur, c'est est-ce qu'on m'annoncera qu'il est mort ?
Exactement.
Ou est-ce que je resterai dans ce silence et dans cette attente perpétuelle ?
C'est une source de grosse anxiété, je pense, aujourd'hui, pour les parents pour tout être humain, en fait, de se dire qu'on vit vraiment dans une société qui est instable. On va dire ça comme ça, à l'échelle mondiale en tout cas, c'est instable. Et je trouve que c'est une grosse source d'anxiété pour les parents notamment, ou même pour les futurs parents.
Oui.
Parce que, en tout cas, personnellement, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui se disent que, mais moi, je me pose des questions. Est-ce que je veux vraiment avoir des enfants, en fait, finalement ? Parce que vu dans l'élan que la société prend, ne serait-ce que, comme on a dit tout à l'heure, à travers les préjugés, vous voyez, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi, comment je peux dire ça ? C'est un devoir de chacun aussi, en fait, de travailler pour la paix et pour instaurer, en fait, une société qui fait bon vivre, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nous-mêmes premièrement, mais aussi pour ceux qui viendront après nous.
Oui.
Et souvent, les gens, ils rattachent un peu cette spiritualité, alors que la spiritualité, cette façon de penser, cette philosophie de vie, a un prisme très religieux. Alors que finalement, aimer son prochain, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai dans toutes les religions, finalement. Mais on aurait tendance à rattacher ça à quelque chose de religieux, de biblique, souvent. Et du coup, est-ce que ça, c'est pas aussi un frein à certains pour embrasser justement cet engagement en se disant, mais à quoi je participe ? Est-ce que je participe à un mouvement pour la paix de façon clairement humaniste, ou est-ce que je participe à un engagement spirituel et religieux qui a dans ses axes la paix ? Ce qui peut être un frein pour les communautés qui viennent d'autres religions ou qui peuvent être athées, etc., et qui vont se dire, mais c'est beau, ça me donne envie d'y aller, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de religieux, de non-dit ? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller contre peut-être mes propres croyances, aspirations, etc. Et est-ce qu'on peut tous les cinq se poser cinq minutes et réfléchir à ça pour justement casser cette barrière de quel que soit l'individu qui porte une valeur, une revendication qui soit juste, quelle que soit en fait la religion ou la non-religion.
Oui.
Parce qu'il y a ceux qui ne croient pas aussi et qui ont le droit de ne pas croire. Est-ce que ça nous empêche de le suivre ? Ou est-ce que si tu me suis parce que je suis musulman, ça veut dire que tu embrasses ma religion ? Si tu me suis parce que moi je suis catho ou juif, et ben est-ce que si tu me suis dans le mouvement, et ben du coup tu es tu vois ?
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a pas quelque chose comme ça aussi qui est pas dit mais qui est là, notamment avec ceux qui prêchent beaucoup, les témoins de Jéhovah, etc., qui vont être aussi attirer un peu cette curiosité par rapport à cette vision du monde, cette vision de l'amour. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
À mon avis, moi, déjà, la paix, c'est quelque chose d'universel.
Oui.
Vraiment, c'est universel, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et évidemment, il y a certaines personnes. On vit dans un monde où il y a certaines personnes qui sont qui ont des valeurs religieuses donc bien évidemment pour elles ont cette attirance là ou bien à travers la religion elles personnellement elles arrivent à rechercher aussi cette paix, mais je pense qu'en fait il faut différencier, c'est-à-dire l'aspect universel de la paix que tout le monde recherche, aussi à l'aspect justement religieux de la paix que des personnes religieuses peuvent justement aussi travers tout simplement leurs aspirations ou aussi dans leur quotidien en vivant leur vie de foi, etc., à rechercher. Donc en fait, quand il s'agit de la paix au niveau de certaines institutions, certaines ONG, organisations internationales, par exemple une organisation internationale comme la nôtre, La paix, vraiment, dans ce cas-là, elle est universelle. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, surtout quand on donne le nom de notre organisation, parfois les gens, dans leur tête, nous catégorisent directement de « Ah non, est-ce qu'il y a un aspect un peu religieux derrière votre organisation, ou bien politique, ou etc. »
C'est parce qu'il y a Céleste, non ?
Oui, exactement. Et donc, je reviendrai à ça pour expliquer un peu aussi la philosophie derrière le nom de notre organisation. Nous, on travaille aujourd'hui, en étant à l'échelle internationale, on travaille vraiment avec des différents peuples, différentes nations qui reviennent vraiment des quatre coins du monde. Et donc, on veut mettre en avant l'aspect universel de la paix. On ne peut pas empêcher certaines personnes religieuses de quand même d'avoir une attache, parce que ça vient de leurs liens qu'ils ont à travers
leur aspect.
Exactement, on ne peut pas empêcher ça. Mais néanmoins, il y a cet aspect universel de la paix qu'on doit reconnaître et qui est nécessaire pour le bienfait de tout le monde.
Et est-ce que là, du coup, il n'y a pas un message aussi à véhiculer aux différents, aux différentes personnes avec des croyances différentes, qui ne prient pas le même Dieu, si je peux le dire comme ça, sur justement l'importance sur ces questions-là de faire corps. Nous, vendredi dernier, on était à un événement qui prenait justement la paix et la justice par rapport au conflit entre Israël et Palestine. Oui. C'était vraiment, il n'y avait pas de parti pris, soit pour Israël, soit pour la Palestine, mais plutôt cette notion de une vie est une vie et un enfant est un enfant. Exactement. Et du coup, on avait des personnes qui étaient de représentativité différente, avec des croyances différentes, des religions différentes. Et ça, en fait, c'est le vrai peut-être message fort d'être main dans la main avec plusieurs associations culturelles, mais aussi cultuelles, qui embrassent ensemble, en fait, un message de paix. Et ça, ça serait vraiment fort, en fait, d'avoir tous les cultes réunis sur une cause commune, marchant main dans la main, connectés. Bon, je ne sais pas si c'est utopique, vu le contexte actuel, mais en fait, ça serait vraiment quelque chose qui montrerait aussi à tout le monde qu'ensemble, on peut tout faire. C'est-à-dire que si on arrive à se réunir sur la paix tous ensemble, sans prendre de parti politique, sans mettre en avant ses idéaux politiques, sa philosophie, mais juste sur est-ce que nos enfants ont le droit de vivre, et que tu as toutes les communautés réunies, est-ce que quelque part, en second plan, pour régler les conflits dans les pays en état de guerre, il n'y a pas quelque chose qui peut résonner, en fait, profondément? C'est-à-dire, si on a marché pour demander à ce que nos enfants aient le droit de respirer et de vivre, bah, logiquement, il doit y avoir un mécanisme qui doit se mettre en place pour arrêter la guerre, arrêter les conflits, puisque c'est la revendication première. Oui. Et c'est ça qu'on n'arrive pas, en fait, à créer, cette impulsion, en fait... juste de que chacun regarde. En fait, chacun aime son enfant. Individuellement, chacun aime son enfant. C'est-à-dire que si chacun se dit bah, « moi, j'arrête pour que mon enfant vive », normalement, la logique voudrait que plus personne n'aille au combat, en fait.
C'est ça.
Puisque chacun garde son enfant. C'est un peu comme quand il y a eu les émeutes. En fait, si on a essayé de lancer des messages de façon collective, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand tu dis à chaque parent individuellement « toi, prends ton enfant et que chacun le fait, finalement, il ne reste plus personne dans la rue. Et ça s'est vu très vite.
Ouais, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les parents sont malades.
Alors, moi, personnellement, je ne suis pas malade.
Je fais une généralité, mais la généralité ne veut pas dire l'intégralité. Quand je dis les parents sont malades, c'est que...
Malade de l'amour.
Déjà, au sein des familles... On prône plus, ou en tout cas beaucoup, trop, à mon goût, la haine de l'autre, la peur de l'autre, le mépris de l'autre. Déjà.
Ouais, ça c'est vrai.
Donc c'est compliqué, en fait, de... En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question de est-ce que vous n'avez pas eu des moments où vous vous disiez est-ce que c'est pas un combat,
c'est dur, en
fait. Est-ce que c'est pas un combat joué d'avance?
Après. C'est intéressant ce que tu dis, Anne, parce que en fait, on fait le lien avec tous les parents qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas parents d'ailleurs. C'est-à-dire que des fois, on n'a même pas conscience qu'on véhicule de la méchanceté, de la haine. Oui. C'est-à-dire que dans nos propos quotidiens, ça ne va pas être un message de destruction massive, mais ne serait-ce que « regarde-la, elle, regarde-les, cela ». Ou des fois, on entend des choses beaucoup plus brutales sur « regarde-moi ces Noirs, ces Arabes qui rentrent dans leur pays, regardez-moi ces Juifs qui se permettent le tout et le rien, regardez-moi ces Chinois enfin, ». Et du coup, en fait, au quotidien, tous ces petits moments où on dénigre l'autre, et on peut parler de harcèlement, il y a tellement de sujets, les violences faites aux femmes, etc. Mais du coup, ça teinte quand même la société de quelque chose de très négatif et très violent, qui est un peu aux antipodes de l'amour. Donc, par rapport à la réflexion que tu avais, Barberiche, sur est-ce que le réel travail de fond n'est pas à faire avec les adultes en même temps qu'il soit fait avec les enfants. Mais si on travaille que sur la nouvelle génération, et d'ailleurs c'était le fil de tout à l'heure, merci à tous, vous m'avez ramené dessus. Si on travaille que sur les plus petits, est-ce que ça peut vraiment fonctionner si de toute façon l'adulte qui l'encadre n'a pas changé? Ça veut dire que tu es en train d'ancrer quelque chose chez un enfant qui va être déconstruit tous les soirs. Limite, il faudrait recommencer tous les matins parce que toute la journée, tu vas lui donner un message de paix et le soir, quand il rentre, et le week-end, tout est déconstruit et est à reconstruire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le fil de tout à l'heure, c'était j'aimerais bien que chacun y réponde et qu'on commence peut-être par Barberiche parce que vous êtes clairement engagé, donc votre réponse, elle est... quelle est ta vision, en fait et cette question, chacun d'entre vous, posez-la vous vraiment, dont la manière quelle est ta vision dans la manière dont l'éducation dès le plus jeune âge peut changer et prévenir justement tous les conflits et les violences. Et du coup, là, on s'est beaucoup épanché sur la guerre, mais on parle aussi des violences urbaines, des violences faites aux femmes, des violences conjugales, tout. Selon toi, on aimerait connaître ta vision, de l'importance d'éduquer dès le plus jeune âge pour prévenir.
C'est primordial, déjà, de prévenir dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on rentre en société, dès lors qu'il y a sociabilisation, on est face aux autres. On est en lien, en rapport avec les autres. Et si on regarde bien un enfant, la première des choses qu'il fait avec l'autre, il donne de l'affection, de la tendresse. Rares sont les enfants qui vont taper. Au début, c'est la découverte. Donc quand on est dans une découverte, on touche. D'accord ? Donc on touche sans qu'il y ait cette brutalité, cette violence, dans un premier temps. Ensuite, l'enfant grandit et il commence à capter, comprendre ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que si, à la maison, on tape, c'est brutal, on parle fort, il va le faire. Et en fait, ce que je me dis, c'est que il est important, nous, c'est pour ça que je reviens sur les parents, parce que malheureusement, les enfants sont nos éponges.
Exactement.
Je vais donner un exemple très simple. Lorsque nos enfants rentrent à l'école, la plupart du temps, les parents disent à leurs enfants, si on t'embête, tu te défends.
Si on te tape, tu tapes.
Si tu tapes, on tape, tu tapes. C'est ce qu'on dit.
Malheureusement.
Et ça commence par là, en fait. C'est-à-dire que si nous, au sein de la famille, la violence est prohibée, l'enfant, quand il va sortir, il n'y aura pas de témoignage de violence, à mon sens. Ou en tout cas, ils seraient réduits. Donc c'est pour ça que c'est important au sein de la famille. Par exemple, nous, on a des filles, malgré qu'elles fassent des sports de combat.
Mais hier, dans la pièce de théâtre, il disait que le sport de combat, c'est d'abord de l'amour.
Et qu'elle maîtrise bien leur sport de combat, on leur dit. Moi, je sais que j'ai une de mes filles qui a été, lorsqu'elle est rentrée en sixième, je crois, au début, il y avait une élève dans sa classe qui aimait bien embêter les autres. Et nous, ce qu'on lui a dit, alors qu'on aurait pu lui dire, vas-y, la laisse pas. Use de la violence. On lui a dit, parle-lui. Préviens-la. Dis-lui, écoute, moi, tu ne me fais pas ça. Une fois, deux fois, trois fois. Après, fais-lui comprendre que elle ne comprenait pas, mais va voir le professeur. On a vraiment mis en place des choses pour pas qu'elle use de la violence.
Oui.
Même si on sait que bah, si elle aurait usé de la violence, ça aurait été compliqué pour l'autre petite fille. Mais on lui a dit de ne pas user de la violence.
Mmh.
Et moi, je sais que du coup, mes filles comment dire, ça passe par là. Ce que je veux dire, c'est que ça passe par là. Après, c'est pas aussi simple.
Oui.
Parce qu'elles sont aussi conditionnées, influencées par l'extérieur.
Mmh.
Donc, on parle de coéducation. Donc, c'est vrai qu'elles prennent aussi d'éducation un peu partout.
Oui.
Mais en tout cas, pour raccourcir ce que j'ai à dire, c'est que la première base de l'éducation, c'est la maison. Donc, si à la maison, le socle, c'est un socle de tendresse, d'affection, d'amour, de tolérance, et eh ben l'enfant il va grandir avec ça.
Mmh.
Et je pense qu'aujourd'hui, même des fois de manière inconsciente, on est violent, que ce soit dans nos propos,
oui.
que ce soit dans notre manière d'être,
oui.
que ce soit dans notre rapport avec les autres. Et je pense que les enfants, bah, comme je l'ai dit précédemment, sont des éponges et prennent.
Oui.
Athénaïs, alors du coup, mmh. je te repose la même question. Quelle est ta vision sur la manière dont l'éducation peut changer les mentalités dès le plus jeune âge pour prévenir les conflits?
Je pense aussi que c'est quelque chose de très important parce que, en fait, toutes les expériences qu'on fait dès le plus jeune âge, bonnes comme mauvaises, vont vraiment marquer la personne qu'on va devenir. Donc, je pense sincèrement que c'est très important de pouvoir bien éduquer son enfant dès le plus jeune âge et aussi lui montrer. Et ça passe par les parents, ça passe aussi par ce qu'il peut voir à l'école. Je pense que j'aurais fait même un parallèle avec ce qu'on peut voir aussi à la télé et ce que les jeunes peuvent voir.
Et les réseaux sociaux aussi.
Oh
là là, ouais.
Bah, y a les réseaux sociaux. Il y a même... oui, je parlais aussi une fois avec mon petit frère du changement qu'il y avait dans les dessins animés aussi.
Mmh.
Entre quand on était plus jeune, il y avait beaucoup de leçons à apprendre à travers ça.
Il y avait des morales à chaque fois.
À chaque fois. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup changé aujourd'hui.
Mmh.
Et je trouve ça malheureusement dommage parce que même quand tu es... quand tu es enfant, quand tu regardes la télé, bah en fait, des fois, il y a ce que tu entends de tes parents, ce que tu vas surtout voir, que tu vas retenir, et aussi ce que tu vois à travers bah, ce que tu affectionnes le plus. Et des fois, ça passe par les dessins animés, par les spectacles, etc. Donc, c'est vrai que, en fait, je pense que quand on crée un environnement, après, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas maîtriser, malheureusement, mais créer l'environnement le plus sain, ouvert, à son enfant, c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus important, en fait, pour pouvoir le permettre de pouvoir grandir. Et je pense que c'est aussi la mentalité qu'on a. Même, c'est vrai qu'on peut pas forcément... on essaye de pouvoir faire des ateliers avec les parents au niveau de l'éducation à la paix. Mais c'est vrai que ce qu'on essaye aussi avec les enfants, c'est aussi ça, de pouvoir... en fait, il y a beaucoup à l'école aussi, comment être un bon citoyen, etc.
Mmh.
Mais du coup, nous, on essaye aussi de créer ces bases-là pour qu'ils puissent être de bons messagers de paix. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi les choses qui doivent être faites à la maison. Et aussi, j'aurais dit que parfois aussi, les enfants peuvent ouvrir les yeux à leurs parents. Dans le sens où il y a beaucoup d'activités ou de sensibilisation autour de l'environnement. Et bah, des fois, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire à ton papa, mais pourquoi tu fais ça? Ou ta maman, hein. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai appris qu'il fallait faire ça. Et des fois, bah, l'entendre de la bouche de son enfant, ça peut aussi beaucoup plus t'impacter.
Ouais. C'est clair. Ouais. Princesse, ta vision?
Alors, moi, ma vision, en restant vraiment sur l'importance de la famille, l'éducation qu'on reçoit en famille, vraiment en touchant les parents, les adultes. Je partirai sur le fait que, par exemple, chaque année, on prend des résolutions. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on parle du fait que les parents ont besoin de recevoir, de se refléter, de penser à comment transmettre aussi des bonnes valeurs de sorte à ce que leurs enfants puissent devenir de meilleures personnes. Mais en fait, ça peut passer vraiment par des petits gestes. C'est-à-dire que même chaque année, on prend une résolution de, je vais me mettre en régime ou je vais plus faire ceci ou faire cela. en fait, on peut vraiment se dire, bon, en fait, cette année, je voudrais devenir une meilleure personne, travailler mes valeurs, travailler ma manière de parler aux autres, m'adresser aux autres, l'environnement à la maison. À travers cela, on peut véhiculer justement les valeurs hein, pour les plus petits. Parce que c'est vrai que si on se dit simplement que, ah non, je dois... Quand je parle vraiment de l'éducation, c'est-à-dire recevoir vraiment un programme et tout ça, ça peut paraître un peu très impressionnant quand on regarde un peu à l'échelle juste voilà, nationale ou bien internationale. Mais à travers les petits gestes, je trouve que les parents peuvent déjà premièrement eux-mêmes prendre conscience qu'ils peuvent transmettre, véhiculer vraiment ces caractéristiques, ces valeurs, en fait, à leur plus petit, de manière, je dirais, moins... comment dirais-je ça ? De manière très... plus parlant, de sorte à ce que, vraiment, ben, les enfants, en voyant les parents faire, peuvent apprendre et aussi agir de la même aussi avec leurs camarades à l'école ou bien juste tout simplement entre eux. Mais vraiment, de sorte, c'est que les parents ne se sentent pas vraiment dans une optique que ah, je dois recevoir telle et telle éducation ou je dois traverser. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, tout le monde vient à des parcours différents. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont des difficultés vraiment d'être éduqué, de recevoir une certaine formation, etc. Vous voyez. Donc, je trouve que à ce niveau-là, faire le travail sur soi peut vraiment se faire de façon subtile, peut se faire de diverses manières. Et de cette manière-là, on peut aussi attaquer toutes les racines qui est la haine, message des propos un peu voilà mal placés et transmettre les bonnes valeurs. Oui.
Shan,
yes.
Ta vision.
Alors...
Shan,
non, je rigole. Elle a bien
en fait, chers auditeurs, je dis ça parce qu'au début, j'ai dit Shane, puis Shannon, et puis elle m'a dit non, c'est Shan.
Elle
l'a pas dit comme ça, mais moi, j'aime bien le dire comme ça, j'ai l'impression qu'elle a fait une bêtise.
Mais ben non, je n'ai pas fait de bêtise, en tout cas, pas encore.
Vas-y, alors, dis-nous ta vision.
Donc, est-ce que c'est possible de répéter la question pour que je puisse
bien répondre ? Oui, en fait, l'idée, c'est de savoir quelle est ta vision à toi, d'un point de vue personnel, dont la manière d'éduquer dès le plus jeune âge à justement cette notion de paix va être un frein et faire reculer justement les conflits, les violences.
D'accord, ok. Pourquoi est-ce que c'est important selon moi ? C'est parce que en éduquant les enfants et les jeunes, c'est aux générations futures en fait. C'est-à-dire que on fait un travail de fond pour les générations futures. Non pas que on oublie les générations actuelles qui sont acteurs de notre histoire aujourd'hui, mais on se prépare et comme vous l'avez dit précédemment, l'éducation des enfants et des jeunes a aussi un impact sur leur environnement, c'est-à-dire sur des personnes, des grandes personnes, entre guillemets, qui les entourent. Mmh. C'est-à-dire que lorsque on va diffuser certaines valeurs, on va enseigner justement aux enfants l'estime de soi, le respect, le pardon, toutes ces valeurs-là, on va leur enseigner ces choses, c'est des choses qui auront forcément, qui vont faire écho en fait dans leur environnement et autour d'eux.
Oui.
Et notamment à travers les éducations à la paix, on n'éduque pas que les enfants et les jeunes. Bon, on a également un programme qui s'adresse aux enseignants.
Important. Et ça devrait être même de façon plus élargie à tous les acteurs professionnels. Éducatif, ouais. Que ça soit les enseignants, les éducateurs spécialisés, les Exactement. Éducateurs sportifs, tous ceux qui gravitent autour des enfants, en fait, Exactement. Les animateurs. J'aimerais faire une transition sur l'amour. Si on veut parler de paix,
oui.
On a parlé de la partie estime de soi, la paix avec soi-même.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une question fondamentale autour de l'amour ? Est-ce qu'on s'est aimé vraiment ? Comment on s'aime et comment on s'aime soi, comment on aime les autres ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un apprentissage autour de l'amour ? Je pense notamment à tous ces enfants qui oui. peuvent aussi évoluer dans des milieux où il y a peu d'amour, voire pas d'amour, ou un amour défaillant. On aborde souvent trop peu, ou en tout cas les dents serrées, la thématique des incestes, etc., qui est une déformation, une malformation de l'amour, un amour défaillant.
Oui.
Mais on ne peut pas non plus les taxer d'être dans un désamour. Oui. Parce que s'ils ont été aimés comme ça, et ben ils le reproduisent. C'est Est-ce ça. Qu'il n'y a pas une vraie question à se poser sur l'amour? Parce que du coup, quand on parle de paix, en fonction de ce que je mets derrière la paix, derrière l'amour, comment j'aime, comment je transmets l'amour,
oui.
est-ce qu'inévitablement, il n'y a pas aussi des dégâts qui se font? Tout à l'heure, vous parliez justement de la place des adultes, des premiers éducateurs des enfants, c'est-à-dire les parents.
Oui.
Si moi, je suis un parent incestueux, par exemple, j'aime mon enfant de façon déviante, du coup, lui, ça va créer des traumatismes qui vont s'exprimer violemment.
Oui.
Et est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à creuser pour justement que la boucle soit complète, en tout cas que les maillons de la chaîne soient... autour de l'amour, l'éducation à l'amour, comment on aime. Bouba, le deuxième chroniqueur, n'est pas là. Il aime bien dire que il devrait y avoir une école de l'amour.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Mais c'est bizarre de dire ça, déjà.
Une école de l'amour?
Non, je rigole.
Ça, c'est l'over, un petit peu.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est important de pouvoir enseigner. Parce que vraiment, Aminata, tu l'as bien présenté, c'est-à-dire que même dans l'amour qui est une bonne valeur, il peut y avoir des déviantes. Donc, c'est-à-dire que ma perception de la paix ne sera pas forcément la même perception que la personne à côté de moi.
Mmh.
Donc, c'est des choses vraiment qu'il faut cadrer. Et lorsqu'il y a des déviantes, il faut, comme tu l'as dit, creuser, aller au centre même de la problématique pour savoir à d'où est-ce que cette déviante-là a commencé, en fait?
Oui.
Quelles sont les racines de ces déviantes-là? Et comment faire pour pouvoir orienter la personne d'une façon à, lorsque elle comprendre déjà qu'est-ce que l'amour représente pour elle et qu'est-ce que donner de l'amour aussi représente pour elle. Afin de comprendre, en fait, certains mécanismes qui se créent aussi, justement, dès l'enfance et que les parents vont reproduire, qui vont faire reproduire à leurs enfants. Et c'est ainsi qu'on va... Ça permet de pouvoir... de briser, entre guillemets, des cycles, vous voyez, intergénérationnels qui se reproduisent encore et encore.
À ça, moi, je voudrais... justement, dans nos programmes, on a une leçon qui touche sur ça. Où on voit, on explore justement le fait que l'amour... est la base, la fondation de la paix. Donc, tout repose vraiment sur l'amour. Dans le sens où, tout à l'heure, tu parlais des choses qui se reproduisent au sein d'une famille, l'amour m'a placé, etc. En fait, il y a aussi une certaine responsabilité. En tant que, par exemple, je donne l'exemple des parents. Moi, en tant que parent, si je joue mon rôle comme il se doit, alors, dans ce cas-là, je ne produirai pas en fait des choses qui vont nuire que ce soit à mes enfants ou bien à ma famille parce que je joue mon rôle comme il se doit et indirectement voilà j'ai cette influence dans ce noyau qui est ma famille. Mais en tout cas l'amour vraiment quand on aime l'amour vraiment l'amour qui voudrait le bien pour soi-même, eux aussi pour les autres. Dans ce sens-là, on ne sera pas amené à vouloir nuire à l'autre. Parce que quand l'amour est mal placé, en fait, même cet amour qui est mal placé lorsqu'il est transmis, à l'intérieur de l'individu, il y a forcément quelque chose qui... on n'est pas en paix en soi, comme on dit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même à travers donc, nos programmes d'éducation à la paix, on essaie vraiment de rentrer profondément et comprendre la racine même des conflits.
Yes.
D'où vient ce conflit? Attaquer dès la racine et rentrer vraiment dans les profondeurs pour faire en sorte justement que même que ce soit à travers des différentes manières de s'exprimer, de parler, d'avoir la perception, la conception de soi-même, que ce soit fait de façon harmonieuse et coopérative avec toutes les personnes qui m'entourent. Mais vraiment déjà attaquer cette problématique dès la racine et avoir l'amour comme fondation pour le reste.
Athénaïs, j'ai une dernière question pour toi sur l'amour. Ensuite, je laisserai la parole à Barbe Riche qui a l'habitude de poser les questions qui dérangent, celles que tout le monde se pose mais n'ose pas vraiment poser.
ça fait peur un
petit peu. Je ris d'avance.
En fait, c'est intéressant d'avoir cette rubrique parce qu'on sait que quelle que soit la cause, il y a des questions de fond qui ne sont pas posées mais qui sont là et qui empêchent aussi l'avancée.
Oui.
Et aussi, c'est ce qui permet aux auditeurs après de continuer à débattre chez eux parce que souvent même, on fait exprès de ne pas répondre à la propre question. Athénaïs, dans une société de plus en plus fragmentée, comment l'amour en tant que valeur universelle peut-elle contribuer à créer des ponts entre culture et, et des communautés différentes? L'idée là de cette question, c'est peut-être, aidez-la les filles, c'est peut-être d'avoir des idées d'action concrètes qui démontrent le pont possible entre justement l'amour et la gestion des conflits ou des violences.
D'accord. Je laisse Athénaïs répondre et j'aurai un exemple à donner après.
Tu peux donner ton exemple, ça va l'aider. Mais l'idée, en tout cas, la question, c'était dans une société de plus en plus fragmentée, comment l'amour en tant que valeur universelle peut-il contribuer à créer des ponts entre des cultures et des communautés différentes? C'est-à-dire que si tu pars du principe que dans chaque culture, dans chaque communauté, il y a plein de différences, on en parlait tout à l'heure, on va d'abord pointer la différence plutôt que la ressemblance. Comment l'amour, de façon universelle, peut-elle être un pont dans nos actions du quotidien?
Moi, je donnerais l'exemple du patrimoine. Patrimoine immatériel, patrimoine culturel. En fait, on est tellement attaché à notre patrimoine. Ça fait partie de nous. Voilà, on est baigné dedans, c'est nous. Et en fait, on valorise tellement le patrimoine. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer Paris sans la Tour Eiffel, par exemple. Il y a des gens qui viennent de très loin pour venir voir la Tour Eiffel. Et si du jour au lendemain on se réveille et la Tour Eiffel n'est pas là, on sera tellement choqués. On a vu avec Notre-Dame. On était tellement en larmes. Parce que c'est tellement précieux. Et donc, quand on valorise son patrimoine, que ce soit patrimoine immatériel, architectural, peu importe, on sait aussi comment le faire découvrir à l'autre qui ne connaît pas, le faire valoriser aussi à l'autre. Et à nous aussi, en ayant vraiment cet esprit ouvert, de connaître, vouloir connaître le patrimoine de l'autre, le respecter, le valoriser, et à travers ça, on a un échange interculturel. Et donc, en fait, à travers le patrimoine, je trouve vraiment ça crée un pan d'échange, de partage entre différentes cultures.
Oui, clairement. Et dans ce que tu as dit, y a la notion d'amour. Si tu aimes ton patrimoine, si tu aimes... ça laisse aussi une autre question, c'est qu'aujourd'hui, en France... il y a un désamour de la nation pour la nation. Ça veut dire que tous les individus qui composent la France, dans notre pluralité, on n'est pas forcément tous en accord et en harmonie avec une société qui nous montre tellement de désamour, mais qui veut qu'on la respecte et qu'on la valorise. Donc, si on veut travailler sur cette question de patrimoine, il faut que chaque individu à part entière se sente français avec cet amour pour la France, terre d'accueil ou terre d'asile ou peu importe. Mais si tu n'arrives pas à obtenir qu'un peuple aime sa nation, l'amour du patrimoine, il est un peu faussé. Tu vois ? C'est-à-dire que, du coup, c'est très intéressant comme exemple que tu as pris, parce que si on aime son patrimoine, qu'il soit universel, matériel ou immatériel, et ben du coup, on peut le transmettre à d'autres, et on voit bien que ça fonctionne, puisqu'à chaque fois qu'on se déplace dans un pays voisin, on va voir le patrimoine.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Donc, le problème, là, il va être tourné un peu sur la France par rapport à toutes les problématiques qu'on rencontre. C'est comment faire en sorte qu'on s'aime et qu'on accepte de s'aimer en tant que Français à part entière, pour pouvoir ensuite aimer notre patrimoine commun et le transmettre. Et là, il y a aussi un chantier.
Et ça, c'est clair. Ça fait écho justement au sommet de la francophonie qui avait lieu dernièrement. Tous ces pays francophones, en parlant de la France, aujourd'hui, sur le territoire français, il y a plusieurs personnes de différentes nations, bien évidemment, et surtout beaucoup de ceux qui sont de la francophonie. À quel point ces personnes-là se sentent vraiment francophones? À quel point ils sont vraiment attachés à ces cultures justement de la francophonie. En fait, en parlant un peu de mon expérience, moi je suis, mes parents sont des origines de la République démocratique du Congo, mais voilà, on a grandi en Angleterre. Et ensuite, moi, je suis venue m'installer en France sur Paris pour des raisons de travail, voilà, d'emploi. J'ai décidé de venir ici. C'est vrai que, voilà, en même temps, je me sens francophone, mais en même temps, je suis voilà, vraiment très attachée aussi à la culture anglophone, britannique. Et donc, cette question de vraiment cette attache aux cultures francophones, déjà la langue française, son héritage, voilà. Parfois, je me dis, mais à quel point vraiment les personnes qui sont sur le territoire français, comment est-ce qu'elles valorisent cet aspect d'être francophone? Comment est-ce qu'elles s'intègrent aussi sur le territoire français? Je pense que ça part aussi de là. Voilà. Mais après, c'est vrai que voilà, on peut partir sur tout un débat. Oui. Hein, parce que,
c'est parce que donc, comment elles s'intègrent, mais comment oui. on les aide aussi à s'intégrer ou à ne pas s'intégrer.
Oui.
En te rappelant tout le temps vers tes racines, vers tes origines, vers ta couleur de peau.
Oui.
Et de l'autre côté, quand il faut faire corps, bah, du coup, clairement, tu as tellement abîmé l'autre. Tu as tellement sous-estimé, sous-évalué, dépeint un portrait tellement négatif de l'autre, tellement noir pour le coup, tiens. Puisque c'est un mot tabou, on va dire black, on va dire renom, on va noir de l'autre. Et sur la parentalité, c'est la même chose. À Barberich, il le dit souvent. C'est-à-dire que tu passes ton temps à taper sur les parents, à dire que ce sont de mauvais parents qui font mal les choses. Et de l'autre côté, tu veux que les enfants respectent ces mêmes parents qui ne sont plus du coup des modèles de réussite, mais plutôt des modèles de honte. Il y a vraiment quelque chose autour de tout ça, mais je pense que ça sera l'objet d'un autre parentalité.
Oui.
Il est temps de mettre les pieds dans la tasse. J'espère que vos thés ont bien refroidi. Parce que là, pour le coup, j'ai peur de cet instant.
Non,
je rigole.
Ouais. Donc c'est bien, pendant une heure et demie, on a discuté, on a parlé transmission, culture, amour, affection. Donc c'est cool. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot utopie. Est-ce qu'on est dans l'utopie? Moi, j'aimerais croire que non. Parce que j'embrasse totalement ce que vous faites. Donc pour moi, c'est pas une utopie. C'est vrai que ça va être un long combat.
Oui.
Dont on ne verra peut-être pas les fruits, nous, mais j'espère que notre descendance les verra. Maintenant, ma question.
Oui. Vous avez vu comment il vous a brossé dans le sens du poil et tout. Ne fais pas fuir les filles du plateau.
Ne pensez-vous pas que la guerre, les conflits, la haine sont un fonds de commerce et bénéficient à certains? Et donc, ils ne peuvent pas s'arrêter.
D'accord. Donc là,
Ils ne peuvent pas s'arrêter, pardon.
Là, on est dans le dur.
Là, on est dans le dur. On est dans le positionne-toi. Donne ton avis. Dis ce que tu penses.
Là, ça y est, t'as bousculé Sean.
Non, il ne m'a pas bousculé. Donc, est-ce qu'on pense que la guerre est un fonds de commerce et bénéficie à certains? Oui. Alors, je vais prendre l'exemple sur le fonds des éducations à la paix encore une fois. Donc, sur une des éducations, on parle justement donc de la première partie du curriculum. On s'intéresse aux racines des guerres. Donc, où est-ce que les guerres prennent leurs racines, etc. Et notamment, on parle de quoi? De l'avidité. On parle de l'avidité de l'homme qui, justement, est une des raisons fondamentales de pourquoi est-ce qu'il y a des conflits aujourd'hui. Parce que, bon, cette planète Terre, il y en a des hectares, hein. Il y en a des hectares, il y en a des ressources, il y a de quoi faire pour tout le monde, en vrai. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais parce que, justement, il y a cette avidité à l'intérieur du cœur de l'homme. Cette, j'ai mon gobelet là, par exemple, qui, voilà, je suis en train de finir mon thé. Ah bah, je vais prendre le gobelet d'Athénaïs, parce qu'elle a plus de thé à l'intérieur. Vous voyez, mon gobelet est en train de se terminer parce que je l'ai bu, non pas que je n'ai pas eu de thé. Et puis, je pourrais même demander à Athénaïs si elle veut bien me partager un peu de son thé avec moi, si j'en veux encore. Mais non, il y a aussi ces caractéristiques-là, c'est qui prennent racine à l'intérieur de nous et qui nous font convoiter, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, qui nous font convoiter ce que l'autre a et au dépendant en fait de l'autre. C'est pour ça que avant on a commencé par parler de l'amour, l'estime de soi, l'estime des autres, le respect, etc. Parce que à la base, c'est des choses qui nous manquent. Au plus que d'avoir le respect et l'amour de l'autre, on va justement avoir ces caractéristiques-là, comme on disait au début, individualistes, de voilà, mon intérêt avant celui des autres. Vous voyez ?
Donc, ta réponse, c'est voilà. Un peu un oui.
Exactement.
T'as vu comment elle a voulu nous noyer ?
Non, j'ai pas voulu nous noyer.
Mais c'est clair, t'as bien expliqué voilà. Et c'était important de développer. Oui. Mais on sous-entend un oui parce que l'homme, par nature, veut bien plus d'argent, plus de terre, plus de propriété, plus de reconnaissance, plus de puissance. Mmh. Et du coup, au détriment de la vie de l'autre, il va aller chercher quoi qu'il arrive.
Oui, il va aller chercher quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui va nous mener à des conflits, c'est ce qui va mener à ce que justement il y ait ces différences-là entre nations, entre communautés, qui parfois même vivent dans le même espace, mais il y a telle communauté qui a plus que l'autre, alors qu'on pourrait juste partager, en fait, avoir ce sens-là du partage. Et c'est pour ça que nous, il y a des armes pour faire la guerre, mais nous, notre arme, c'est justement l'éducation, et notamment l'éducation à la paix, afin de pouvoir petit à petit, en fait, changer les valeurs, changer les mœurs et changer la façon de penser, en fait, de l'homme. Ouais, en commençant déjà par nous-mêmes.
Jeanne, présidente. on va bientôt rendre l'antenne et cette question elle est intéressante parce que comme elle est là pour renverser la tasse, l'idée c'est qu'aussi les auditeurs puissent poursuivre les débats et les échanges chez eux, que nous aussi on puisse le faire hors antenne. Rapidement les filles, oui ou non pour vous?
Pour moi c'est oui et je pense que même les jeunes sont plus éveillés sur ces choses-là parce qu'en ce moment par exemple il y a une ère où on voit en fait qui finance par rapport au conflit israélo-palestinien. Et il y a toute cette ère de boycott aussi par rapport à ça. Donc oui, ma réponse courte, c'est oui.
Quand mes soeurs, je dirais oui.
Et toi, Anne?
Moi, c'est clairement ça. Je donne juste un exemple. C'est que les guerres, souvent, interviennent après une crise.
Oui.
Pourquoi? Parce que quand tu détruis un pays, il faut le reconstruire. Déjà, dans un premier temps, les guerres sont financées. Oui. Donc... on va dire qu'il y a une phrase, qui parle du marchand d'armes. Je crois que l'économie, l'industrie la plus lucrative, c'est...
la vente d'armes.
C'est les ventes d'armes, on est d'accord. Et en plus, après une crise, il y a toujours une guerre. Parce que lorsque tu vas détruire, il faut reconstruire. Et du coup, le fait de reconstruire...
Génère
de l'argent, parce que tu dois reconstruire, il y a des entreprises qui s'implantent... Il y a des fonds qui transitent. Donc, pour moi, ça bénéficie à certains.
je vais dire une folie. Sans vouloir être déplacé, on parle de ceux qui financent la guerre, mais on peut aussi se poser la question de ce que ça génère chez ceux qui œuvrent pour sensibiliser... On a plein d'associations, de mouvements, d'ONG qui s'en mettent aussi plein les fouilles, pour parler grossièrement. C'est-à-dire qui génèrent énormément d'argent et qui n'en sortent pas autant que ça par rapport à ce qu'elles génèrent. Je vais laisser chaque auditeur avec ça. Mais du coup, c'est important aussi, quand on sensibilise, de sensibiliser dans les deux sens. Parce que ça aussi, ça fait du tort à la cause. Ça aussi, ça fait du tort à l'avancement de la cause. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins généreux parce qu'on ne sait plus ce qu'on donne, à quoi ça sert, où ça va.
Et à qui on donne.
Et à qui on donne. Merci à Mon Paris FM de nous avoir reçus. Je vous remercie vraiment d'être venus, les filles. C'était vraiment très intéressant d'échanger avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Oui, c'était génial.
C'était vraiment génial. Merci à vous.
On nous retrouve sur Mon Paris FM le mercredi soir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à diffuser autour de vous. Surtout qu'aujourd'hui, le message était beau. Allez, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.